Dans le cadre de notre émission consacrée aux livres, nous recevons aujourd'hui une invitée. Alors, il s'agit de Sonia Sara Lipsy, qui est une sociologue passionnée d'exégèse par ailleurs, rattachée au CNRS. Bonjour madame.
Bonjour.
Et bonjour à Hélène Sabat, qui est chargée des conférences, de l'organisation des conférences dans le cadre de la communauté de Villeurbanne. Bonjour Hélène.
Bonjour Sonia et bonjour à tous.
Alors Hélène est à mes côtés aujourd'hui pour que nous abordions ensemble le thème de la conférence débat qui est organisée alors conjointement ce mercredi 25 avril à 20h30, conjointement je disais par le CCJV, donc Centre culturel juif de Villeurbanne, l'Abnébrit et la Viso d'Aubion. N'est-ce pas Hélène?
Oui, absolument. Je vais continuer cette brève présentation pour que vous puissiez être connu un petit peu de nos auditeurs. Sonia, vous me direz si je me trompe, hein, vous collaborez aux émissions de José Eisenberg dans La Source de Vie. Vous êtes aussi bien connue dans la communauté juive puisque vous vous intéressez aux droits des femmes dans le judaïsme. Et en particulier, vous avez collaboré pour obtenir, je crois, l'éligibilité des femmes au consistoire israélite du Bas-Rhin. Alors vous êtes aussi dans l'action puisque vous animez des tables rondes, des journées de réflexion sur le statut actuel de la femme dans la loi juive, et ce avec des rabbins, des universitaires, des écrivains. Vous avez en plus dirigé et analysé les résultats d'une enquête élaborée par la Viso sur la condition des femmes dans les communautés juives de France. Et enquête menée auprès de rabbins, de responsables communautaires, de travailleurs sociaux. C'est un véritable travail de terrain qui a pris plusieurs mois. Alors, c'est vrai, Sonia Lipsy, c'est un sujet un peu délicat. Et vous avez le mérite d'ouvrir le débat et la réflexion sur ce thème un peu tabou, il faut le dire, et tout en ayant le souci d'être en conformité avec la halakha. Alors, ma première question concernant cette enquête, quels ont été les thèmes abordés et pourquoi ces thèmes et pourquoi aujourd'hui ces thèmes?
Mais écoutez, Jeanne, vous avez fait un portrait dans lequel je me reconnais d'abord, et spécifier que la conférence que je donnerai donc à Lyon, et je me réjouis de venir dans votre ville, s'intitule « L'avancée des droits des femmes au sein du judaïsme français ».
Oui, c'est vrai, on n'avait peut-être pas annoncé le titre.
Oui, mais bon, tout ce que vous avez exposé allait dans ce sens. Alors, vous avez fait référence à l'enquête, effectivement, que j'ai menée pour la Viso. C'est une enquête qui s'est déroulée de novembre 2005 à mars 2006, donc elle a à peu près un an. Elle concernait quatre thématiques qui nous semblaient importantes. Au fond, c'était un état des lieux du statut, de la condition des femmes juives en France, parce que bon, ça, c'est quand même un des axes aussi de la Viso qui, je rappelle, est la première association en nombre de femmes juives en France. Mm-hmm. Et dans sa charte, il y a le fait de se soucier de la condition des femmes dans les communautés juives. Alors, nous avons voulu d'abord avoir une idée un peu de ce qui se passait en matière de divorce, de guet. Donc, ce que révèle l'enquête, vous n'en serez pas étonné, c'est que le taux de divorce dans la communauté juive est le même.
Préciser pour les auditeurs ce qu'est le guet. Hein,
le divorce d'abord, hein, c'est-à-dire que ça touche à peu près 30% des couples qui sont amenés à divorcer. Alors, quand les couples sont mariés sous la roupa, à la synagogue, sous le dénitial, et que ces conjoints souhaitent refaire leur vie, de nouveau avec des conjoints juifs, que ce soit l'homme ou la femme, il faut que le guet, c'est-à-dire l'acte de divorce religieux, ait été délivré par l'homme à son ex-épouse.
Bon.
Tant que la femme n'a pas ce guet entre les mains, et c'est quelque chose qui n'est donné que par l'homme dans la loi juive, dans la halakha telle qu'elle est actuellement, eh bien la femme est considérée comme une femme Agouna, c'est-à-dire ancrée, littéralement ancrée à son statut de femme mariée. Mmh. Ce qui veut dire que si elle a des relations affectives, sexuelles avec un autre homme que son ex-mari aux yeux de la loi juive, eh bien elle est considérée comme ayant une relation adultérine. Mmh. Et si jamais un enfant né de cette relation, il est considéré comme un mamzer, c'est-à-dire un enfant légitime, ce qui veut dire qu'il ne pourra pas se marier avec un juif ou avec une juive. Donc il y a là une situation qui concerne l'ensemble du monde juif dans le monde qui est très préoccupante dans la mesure où il y a un certain nombre de femmes qui sont, je vais le dire en hébreu, je le traduis, qui sont mesurées votre guette, c'est-à-dire à qui les maris ont refusé le guet, et qui donc font partie de cette catégorie plus large des femmes agonautes. Et nous avons voulu savoir, avec la GIZO, ce qu'il en était, combien de femmes étaient dans cette situation, vous l'avez compris, dramatique, parce qu'elles peuvent attendre leur guet pendant des mois, des années, voire toute une vie. J'ajoute qu'il y a une certaine dissymétrie dans la loi juive telle qu'elle est actuellement.
Oui, absolument. Une injustice, je dirais même, hein, Sonia.
Oui, on peut le dire, et sans risquer de heurter qui que ce soit, parce que les rabbins sont bien conscients de ça.
Bien sûr.
Les premières à être heurtées dans ces situations sont les femmes, parce qu'elles peuvent pas refaire leur vie, alors qu'au même moment, un homme qui n'a pas donné le guet, qui vit en concubinage avec une femme, n'est pas considéré comme commettant l'adultère, et ses enfants sont considérés comme juifs à part entière. Donc là, vous voyez, il y a une dissymétrie. Alors, il y a deux solutions par rapport à ça. Soit on décide de changer la loi juive, ce qui est, au sein même du judaïsme orthodoxe, ce qui peut être une dynamique tout à fait acceptable. Je rappelle quand même que un certain nombre de rabbins sont conscients de ça, et qu'il devait y avoir une conférence annuelle en novembre l'année dernière en Israël, à l'initiative du grand rabbin orthodoxe séfarade, le rabbin Amar d'Israël, et que cette réunion a été annulée au dernier moment, alors que déjà un certain nombre de rabbins orthodoxes étaient sur place. Bon, ce qui veut dire aussi les résistances, mais en même temps les possibilités. Donc le souci de la GIZO, c'est de dire, bon, dans l'état actuel, quelle est la situation des femmes qui attendent leur guette, et qu'est-ce qu'on veut faire pour elles? Alors, ce sont des sujets que je développerai au cours de la conférence, sachant en tout cas qu'il y a un nombre significatif de femmes qui attendent leur guette en France.
Alors, justement, est-ce qu'il y a une estimation qui a été établie,
C'est une estimation de l'enquête. Elle est pionnière, hein, l'enquête, dans ce sens-là. Sur ce sujet comme sur d'autres, il y a une estimation qui a été faite, et c'est l'enquête qui a fait. Alors, l'enquête, elle a porté quand même sur une quinzaine de villes de France, sur 100 entretiens qui ont été faits par les différentes bénévoles de la GIZO, y compris votre ville Lyon, et bien entendu que je parlerai davantage, me trouvant dans votre cité, de la situation à Lyon. Vous dire que quand même, suite à cette enquête, et à l'une de mes préconisations, la GIZO m'a commandité, je l'ai fait avec un certain nombre de personnes, un guide du divorce.
Religieux,
et nous sommes en rapport avec le consistoire, de façon à ce que ces guides, dans les mois à venir, nous l'espérons, seront distribués et donnés aux femmes et aux hommes qui essaient d'avoir des renseignements à ce sujet.
Est-ce que ce guide est déjà disponible, Sonia?
Non, justement.
Non,
il a été fait, et actuellement, la GIZO est en pourparlers avec un certain nombre d'autorités rabbiniques pour pouvoir faire en sorte que ce guide soit mis à disposition dans différents consistoires. Voilà, il le sera, sinon, de toute façon, dans l'enceinte même des différentes sections de la GIZO, ainsi que sur leur site internet, et nous l'espérons pour la rentrée.
Alors, vous avez abordé ce thème très important du guet, qui équivaut au statut de la femme divorcée. Il y a un autre aspect que vous abordez au cours de vos conférences, il s'agit de la maltraitance conjugale.
Oui, les violences faites aux femmes. Alors là aussi, nous ne distinguons pas de la communauté nationale. D'après l'enquête que j'ai pu mener, il s'avère que le taux, malheureusement, de femmes qui subissent des violences conjugales est le même qu'au sein de la communauté nationale.
Okay.
Je rappelle quand même un chiffre dramatique, mais c'est pour vous donner un peu une idée, c'est que une femme meurt en France tous les 3 jours suite à des violences conjugales. Donc ce n'est pas rien. Alors cela dit, j'allais dire, prenez besoin de mourir pour que le problème soit grave. Et là, vous avez utilisé tout à l'heure le terme de tabou. Là, on peut dire qu'il y avait vraiment un tabou au sein de la communauté, parce qu'on n'a pas envie, pour des choses qui sont pas glorieuses, que notre statut soit identique à un statut qu'on peut regretter. Mais il faut regarder la réalité en face. Alors face à ça, il y a eu vraiment une avancée, puisque la GIZO, avec la coopération féminine, a mis sur pied un numéro qui donc va être là au courant du mois d'avril mise en ligne, et des bénévoles ont été formés, et c'est pour répondre à un numéro pour que les femmes puissent appeler, être écoutées et être orientées. Je donne le numéro, c'est le 0147 07 39 55, je répète, 0147 07 39 55. C'est tout du lundi au jeudi de 9h30 à 12h30. Parce que ce qu'a révélé l'enquête, Hélène, c'est que il y avait là vraiment un double tabou. C'est-à-dire que, d'une part, les femmes, dans ces cas-là, ne savent pas trop vers où s'orienter. Elles en parlent parfois à leur rabbin qui peut être de bonne volonté, souhaite parler au mari, si celui-ci accepte.
Mais il ne faut pas diminuer avec, à cause du manque de structure peut-être.
Oui, il faut orienter ces femmes vers des structures professionnelles qui existent déjà dans notre pays.
Mmh. Un autre thème, je crois, que vous abordez, c'est celui de la représentation des femmes dans les institutions. Alors, personnellement, j'ai le sentiment que c'est peut-être pas un vrai problème, parce que, je sais pas, lorsque je vais au Fonds social, je trouve qu'il y a beaucoup de femmes. Au Mébrit, il y a peut-être plus de présidentes que de présidents. C'est aussi un petit peu le cas dans d'autres associations. Alors, pourquoi ce problème et qu'en est-il véritablement?
Alors, vous avez partiellement raison qui concerne les associations que vous avez citées et sur laquelle l'enquête n'a pas porté, ce point de l'enquête. Nous nous sommes concentrés sur le nombre de femmes présentes au sein des conseils d'administration des communautés,
d'accord,
ainsi que des consistoires.
D'accord, donc c'est plus au niveau religieux, culturel.
Non, ouais. Vous dites juste, c'est-à-dire que comme elles représentent, et l'Autriche également, hein, qui représentent les Juifs de France, officiellement, eh bien, ce sont les consistoires et c'est le Christ. Et là, il y a un manque de, on va même pas dire de parité, parce qu'on n'en est même pas là. C'est-à-dire qu'il y a très peu, il y a très peu de femmes, et les dirigeants eux-mêmes, on s'en conscient, Roger Kuckermann en premier, il y a une lutte réellement là à mener, les femmes doivent se faire accepter et lire. Vous avez fait allusion à la lutte que nous avons menée, puisque bon, je ne sais pas si les auditeurs et les auditrices le savent, mais donc je viendrai de Strasbourg, qui est la ville où je réside, nous avons mené pendant plus d'un an à Strasbourg une lutte pour que les femmes puissent se porter candidates pour être élus au sein des trois consistoires d'Alsace et de Moselle. Et je raconterai cette lutte de A à Z au cours de la conférence, parce qu'elle est très emblématique,
oui,
à la fois des avancées et des résistances.
Oui. Hein,
parce que bon, il faut faire avec la situation telle qu'elle est, c'est-à-dire ne pas l'accepter de façon résignée, ne pas l'idéaliser, mais se dire, bon voilà, où sont les choses, qu'est-ce qu'on peut faire pour les faire bouger, au fond pourquoi? C'est que moi, en tant que femme, j'ai envie de me sentir dans ma communauté pleinement citoyenne, aussi à l'aise que je puisse l'être en tant que citoyenne, ou dans la vie de tous les jours. Je peux suivre n'importe quel cours, je peux être magistrat si je le souhaite, voter et être élue,
oui,
en France depuis 1945, et je souhaite que ma communauté soit au diapason de la communauté nationale,
exactement,
dans le respect certes de ses traditions, mais non de son conservatisme.
Hélène, on va reprendre avec un thème.
Oui, alors un autre thème, celui de l'étude des textes talmudiques,
oui,
par les femmes.
Ouais.
Bon, si on fait une comparaison avec ce qui se passe en Israël ou aux États-Unis, on a l'impression, enfin, d'après ce que j'entends et ce que je lis aussi de vous, qu'il y a une sorte d'immobilisme, hein, en France. Il y aurait une espèce de judaïsme à la française qui serait un petit peu immobilisé. Alors, d'abord, est-ce que, selon la fin, est-ce qu'une femme peut étudier les textes talmudiques? Est-ce qu'il y a en France pour étudier les textes talmudiques? Et encore une dernière question, est-ce qu'il y a une façon féminine d'étudier les textes talmudiques?
Tout pour le prix d'une question,
c'est ça? Voilà, c'est trois en un.
Bon, alors, oui, absolument. La France accuse un retard.